Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à une critique du socialisme des intellectuels, c'est-à-dire de la social-démocratie et du marxisme bolchevique, et plus généralement de ce qu'on a appelé le socialisme scientifique, le socialisme gestionnaire. Et donc nous sommes toujours avec Sylvain de Zone Subversive pour, autour de trois ouvrages. Un de Yann Wacław-Makaevski, Le socialisme des intellectuels, un autre d'Alain Bire, L'encadrement capitaliste entre prolétariat et bourgeoisie, et un dernier, qu'on n'a pas encore abordé mais qu'on abordera un peu plus tard dans l'émission, l'ouvrage de Karl Korsch, Marxisme et philosophie. Alors, dans la première partie de cette émission, on a donné un peu un aperçu général de la critique qu'on pouvait faire du socialisme des intellectuels, en essayant de à la fois donner des exemples historiques et en même temps de montrer en quoi est-ce que cette critique elle est toujours pertinente pour aujourd'hui, parce que aujourd'hui les organisations d'extrême gauche et de gauche, que ce soit la France Insoumise ou même des organisations syndicalistes comme la CGT et tout ça, restent des organisations qui n'ont pas véritablement comme but la lutte de classe révolutionnaire et l'abolition de la société capitaliste, mais beaucoup plus sa gestion, la gestion de la société capitaliste et de la société de classe, avec donc un maintien des inégalités qui vont avec, par l'encadrement, alors ça varie, hein, l'encadrement syndical, l'encadrement de l'État, par exemple, pour Mélenchon, avec l'idée de la régulation. Et finalement, ce qu'on disait dans la première partie de cette émission, c'est que ce socialisme des classes moyennes, des bureaucrates, des bureaucrates syndicaux et politiques, etc., c'était finalement une idéologie de classe qui défendait les intérêts d'une certaine classe, les classes moyennes salariées, et que ce n'était pas un projet d'émancipation, d'abolition de la société de classe, que, au contraire, ça avait eu historiquement un rôle contre-révolutionnaire, et ce, jusque même dans le socialisme des intellectuels anarchistes, avec l'exemple de la CNT en 1936. Alors maintenant, on aimerait bien revenir de manière un peu plus approfondie sur les différents ouvrages et les critiques qu'elles adressent à ce socialisme des intellectuels, en commençant par ce qu'il y a peut-être de plus général, c'est-à-dire l'ouvrage d'Alain Bire, L'encadrement capitaliste entre prolétariat et bourgeoisie. Pour rappel, on en a beaucoup parlé dans l'émission avec Alain du blog Carbure, mais l'idée, c'est que il n'y a pas que deux classes dans la société capitaliste, donc la classe capitaliste qui détient les moyens de production et qui exploite une autre classe qui est le prolétariat et qui est obligée de vendre sa force de travail et de produire du profit à travers le surtravail, mais qu'il y a une troisième classe qui est la classe d'encadrement et qui est nécessaire à partir du moment où le capitalisme se développe industriellement, où l'État se développe, et qui est une classe qui va avoir pour fonction d'encadrer le prolétariat, que ce soit au niveau du processus de production directement, donc ça c'est les techniciens, les cadres et tout ça, ou que ce soit dans l'État, comme fonctionnaires, que ce soit comme profs, administrateurs territoriaux, etc., qui encadrent le prolétariat de manière plus générale et pas seulement économique, et qui encadrent la société capitaliste. Et l'idée d'Alain Bire, c'est que donc ce n'est pas une classe qui est exploité au même titre que le prolétariat. C'est une classe qui, au contraire, bénéficie en partie de l'exploitation du prolétariat, qui a donc des intérêts divergents au sein de la société capitaliste par rapport au prolétariat, et qui va donc développer un projet politique, qui va être donc le socialisme, qui va être divergent de celui du prolétariat. Alors, s'il y a un projet politique du prolétariat, mais disons que l'intérêt immédiat du prolétariat serait l'abolition de la société de classe et l'abolition de l'exploitation capitaliste, alors que l'intérêt immédiat de cette classe d'encadrement est plutôt d'avoir davantage de pouvoir au sein de la société capitaliste, et en mettant en avant leur qualité justement d'encadrement, leur qualité gestionnaire, et donc leur projet politique, ça va être plutôt, de manière générale, plus de pouvoir à l'encadrement, que ce soit à travers plus de pouvoir à l'État. Globalement, ça va avec un projet d'étatisme, même si aujourd'hui c'est un petit peu différent, mais globalement, ça va avec un projet de plus d'État. La société capitaliste doit être davantage gérée par l'État. Alors, soit totalement, ça c'est l'option bolchevique, soit partiellement, ça c'est l'option social-démocrate. Et en tout cas, C'est un projet politique qui est basé sur le maintien des inégalités, le maintien de l'exploitation de classe et l'augmentation, disons, de la puissance de l'encadrement au sein du processus de production et de reproduction de la société capitaliste. Plus de fonctionnaires, plus de managers, plus de techniciens, etc., etc. Et donc, Alain Bire, lui, dans son ouvrage, L'encadrement capitaliste, relie ça à ce projet politique, relie donc cette classe d'encadrement qui a une place spécifique dans la société capitaliste, une place qui, on a essayé de le démontrer dans l'émission avec Alain du Bloc Carbure, qui est contre-révolutionnaire, parce qu'elle ne veut pas l'abolition de classe, mais plutôt se débarrasser à la limite de la bourgeoisie ou obtenir plus de pouvoir de la part de la bourgeoisie, mais malgré tout maintenir l'exploitation de classe et les inégalités liées au capitalisme. Et donc Alain Bire, lui, consacre un chapitre justement sur la question de la social-démocratie et du bolchevisme, où précisément d'ailleurs il repart d'une citation de Makhaïevski. Et donc voilà, est-ce que Sylvain, tu pourrais du coup résumer un peu la critique qu'il fait du socialisme comme idéologie qui reflète les intérêts de classe des classes moyennes et de l'encadrement, malgré leur vernis que c'est au nom du prolétariat ou pour le communisme dans un horizon lointain.
Alors sur Alain Bire, moi ce que je trouve intéressant, c'est que l'utilisation de ce livre, c'est effectivement pour comprendre et analyser les luttes sociales et les différents clivages qu'il peut y avoir dans les mouvements sociaux actuellement. Il fait une introduction notamment où il parle de la classe d'encadrement et de pourquoi c'est important d'en parler. Parce que aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu d'analyses et de réflexions sur ce sujet-là, pour plusieurs raisons. Et la première, je pense, la plus importante, c'est que les gens qui réfléchissent et qui analysent, de par leur profession notamment, les universitaires, etc., font pleinement partie de cette classe d'encadrement, et donc sont très gênés d'avoir une analyse de classe un peu fine de la société. Et aujourd'hui, la plupart des idéologues de gauche et d'extrême gauche cherchent à gommer cette analyse de classe un peu fine en essayant de comprendre ce qu'est la classe d'encadrement, quel est son rôle, quels sont ses intérêts et comment elle intervient dans les mouvements sociaux. Et notamment, alors à la mode aujourd'hui, la tarte à la crème, c'est le populisme de Mouffe, Laclos, Podemos, Mélenchon, etc. Un espèce de gramschisme d'Antonio Gramsci un peu revisité où on a l'oligarchie contre le peuple, et les 99% contre les 1%. Et ça, c'est vrai que ça permet de gommer le rôle de cette classe d'encadrement. Et je pense que c'est important de comprendre son rôle, pour voir un peu les limites des luttes, et pour comprendre aussi la société actuelle, quels sont ses clivages, voilà. Et le propre, effectivement, de la classe d'encadrement, comme tu l'as dit, c'est de défendre une étatisation du capitalisme. C'est son grand projet de société.
On le voit très bien avec la France Insoumise, d'ailleurs.
Voilà, le programme de la France Insoumise, c'est exactement ça, qui permet de faire regrouper à la fois des économistes keynésiens, des marxistes, etc., d'avoir un peu de tous les horizons, de Jacques Généraux à Lordon, de tous les niveaux de radicalité, pour défendre finalement l'État. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant dans cette défense de l'État par la classe d'encadrement, c'est que l'État n'est pas considéré comme un instrument de la bourgeoisie, comme quelque chose qui permet de maintenir l'ordre social, c'est considéré comme un outil un peu neutre. Et finalement, y a des gens sympas qui arrivent à la tête de l'État, ah ben tout va aller mieux, parce que l'État va être utilisé de manière beaucoup plus sympa, comme on l'a vu en Grèce avec Syriza, comme on le verra sans doute dès qu'il y a des gouvernements de gauche, mais cette fois-ci vraiment de gauche, qui arrivent à la tête de l'État, tout se passe beaucoup mieux.
Oui, et c'est très intéressant parce que l'idée que l'État est neutre va de pair avec l'idée que finalement le développement des forces productives lui-même est neutre, alors que souvent le développement du capitalisme industriel a fait que les ouvriers avaient de moins en moins de prise sur l'appareil de production, étaient de plus en plus, disons, dominés dans le procès de travail. Et c'est-à-dire que l'idéologie de l'encadrement, elle est finalement fondée sur l'idée de la neutralité technicienne. Mmh. C'est-à-dire, finalement, l'État, c'est simplement un appareil technique qui est neutre en soi. Parfois, il y a les méchants bourgeois ou les méchants libéraux qui sont au pouvoir, mais c'est quelque chose qui, techniquement, est bon et généreux. Donc là, il y a la fameuse théorie de Pierre Bourdieu, la main gauche, il y a la main gauche et la main droite. La main gauche, elle est gentille, la main droite, elle est un peu méchante. mais finalement, si les policiers étaient de gauche, ça irait. C'est pour ça que d'ailleurs, Bourdieu allait jusqu'à appeler dans Contrefeu 2 l'État à participer à un mouvement social européen. A-t-on déjà vu un État dans un mouvement social? Je ne sais pas. Mais lui le pensait très sérieusement. Et il y a vraiment, dans toute cette idéologie d'encadrement, une croyance dans la neutralité de l'État, alors que c'est un appareil de domination sur toute la société, c'est un appareil de domination impersonnelle et de classe, tout comme il y avait une croyance dans le développement des forces productives comme neutre, alors même qu'on sait très bien que Marx lui-même avait analysé le développement des forces productives, notamment comme le passage de la subvention formelle à la subvention réelle, c'est-à-dire le passage d'un contrôle du processus de production par les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes et elles-mêmes, à une organisation où les prolétaires ne maîtrisent plus rien et sont devenus, comme dit le dit Marx, des appendices de la machine. Et également de la classe technicienne qui a beaucoup plus de pouvoir, qui a eu, avec le passage de la subvention formelle à la subvention réelle, la classe des techniciens, des ingénieurs et des bureaucrates a beaucoup plus de pouvoir que du temps du capitalisme des manufactures où les artisans maîtrisaient quasiment tout le processus de production et où d'ailleurs la classe d'encadrement n'existait pas parce qu'il n'y en avait pas besoin. L'exemple aussi du fait que systématiquement dans la plupart des analyses marxistes et social-démocrates, la classe moyenne disparaît, c'est-à-dire qu'elle est finalement rattachée au prolétariat, ou alors éventuellement elle est distinguée, mais comme intelligentsia, donc finalement des braves types en gros qui se dévouent au socialisme et à la cause ouvrière, qui font des sacrifices, et qui sont des gens vraiment bien et tout. Donc ça c'est la théorie bolchevique, hein, finalement, avec les révolutionnaires professionnels et tout ça. On voit bien finalement que toute l'idéologie des classes moyennes est de se faire passer comme neutre dans la lutte des classes, finalement que l'État c'est neutre, le progrès des forces productives c'est neutre, alors même qu'à chaque fois, que ce soit l'État comme appareil de domination de la classe étatique, notamment sur le reste de la société, mais plus généralement de l'État sur toute la société, que ce soit le développement des forces productives avec la subvention réelle et la domination toujours plus forte de la classe d'encadrement et du capital sur le prolétariat, eh bien, on voit bien que la classe moyenne et, disons, les processus plus impersonnels auxquels elle s'identifie et auxquels elle participe activement, c'est-à-dire le développement de l'État et le développement des forces productives, le passage à la subvention réelle, etc., tout ça, la classe moyenne la neutralise idéologiquement en faisant passer ça simplement comme des choses purement techniques. Et c'est là que tout le socialisme et des intellectuels est basé sur une fausse dichotomie entre ce qui est technique et ce qui est politique, et où ce qui est technique, c'est l'État, la subvention réelle, tout ça, c'est juste technique. Et par contre, ce qui serait politique, ça serait le néolibéralisme, alors que, par contre, le keynésianisme, par exemple, c'est objectif, c'est l'économie, c'est bon, c'est neutre, etc. Dans tout le socialisme des intellectuels et de l'encadrement, il y a vraiment une tentative de s'extraire du débat politique et de dire finalement nous sommes neutres. Et finalement, c'est une idéologie qui est éminemment fétichiste. C'est fétichisme de la technique, fétichisme de l'État, fétichisme de la science, du progrès. Tout comme la remarque de Marx, que Marx faisait par rapport à l'attitude des économistes par rapport au capitalisme et au féodalisme. Les économistes disaient « Oh là là, le féodalisme c'est une construction sociale, c'est... » Donc les économistes bourgeois disaient ça à l'époque de Marx. « Le féodalisme c'est une construction sociale, c'est artificiel et tout ça. Par contre, le capitalisme c'est naturel. C'est naturel, c'est quelque chose de purement technique, c'est la réalisation des instincts humains. » Eh bien, de la même manière, la classe moyenne naturalise, en faisant des purs moyens techniques, l'État, le développement des forces productives, qui sont autant de processus objectifs qui sont au fondement de leur domination de classe, en réalité.
Tout à fait. Oui, ça, je trouve important de dire qu'effectivement, cette classe d'encadrement va produire aussi une idéologie qui permet effectivement de gommer tous les clivages sociaux, et une idéologie qui aujourd'hui, à la gauche, est quand même très importante. Dès qu'on parle de mouvement citoyen, c'est ça qu'il y a derrière. Dès qu'on parle de défense de l'intérêt général, de défense des services publics, évidemment. Hein. La défense des services publics, c'est typique de ces revendications qui disent, bon, ben, finalement, tout le monde défend les services publics, etc. Mais qui sont les services publics ? Les services publics, en général, c'est les cadres de la fonction publique qui ont le plus intérêt à les défendre. Parce que bon, les gens qui sont employés dans la fonction publique catégorisée, ils n'ont pas trop intérêt à défendre les services publics, puisque c'est une forme d'interclassisme. Ils vont être avec leur chef de service, leur directeur, en défendant finalement l'intérêt commun d'une entreprise. La défense des services publics, évidemment, c'est les gens qui dirigent ces services publics qui ont intérêt à défendre. Ce type d'entreprise-là. Et il y avait, en plus du livre d'Alain Bia, il y avait le livre de Roland Simon sur le démocratisme radical, où, bon, alors le livre est très complexe, je ne suis pas sûr qu'il s'adresse au prolétariat, etc., mais par contre, il essaie de décrire un peu toute cette idéologie qu'il appelle le démocratisme radical, qui vise à gommer les différents clivages de classe qui existent dans la société, vers un côté, un discours pour les citoyens. Alors, ça a été écrit à l'époque de l'altermondialisme, qui incarnait beaucoup ça après 95, c'est le discours du tous ensemble, hein, quel que soit, alors c'est même pas quel que soit les classes sociales, c'est il n'y a pas de classe sociale, on est tous ensemble, on se tient main dans la main, l'altermondialisme, etc.
Le peuple, les multitudes. Peuple,
voilà, les multitudes, tout ça contre la finance, évidemment. Voilà. Et c'est vrai que c'est un discours qui vise à désamorcer ce qu'il y a de potentiel de contestataire dans les luttes, de potentiel vraiment de rupture avec le capitalisme. Et c'est un discours qui va beaucoup, et qui existe aujourd'hui encore, hein, dans les Nuits Debout, des échos qu'on avait, il y avait beaucoup ce discours-là, finalement, voilà, le discours citoyen, contre la lutte des classes, en gros. Hein. Effectivement, il était plus question de mouvements citoyens que de lutte des classes. Et ce discours-là va influencer les mouvements sociaux, puisque les mouvements sociaux, à partir de là, leur objectif, ce n'est évidemment pas la rupture avec le capitalisme, avec l'État, et pour créer une nouvelle société communiste et libertaire. L'objectif des mouvements sociaux, ça va être d'interpeller l'État pour qu'il mène de meilleures politiques publiques, pour qu'il se réengage financièrement dans tel ou tel secteur des services publics. Et le rôle des mouvements sociaux, du coup, c'est plus de s'auto-organiser, de devenir une société nouvelle, une forme de double pouvoir. Ça va être, au contraire, d'être une espèce d'écuyer de l'État, d'être un peu trublion pour interpeller sur tel ou tel sujet avec ses contre-experts à l'époque. D'ailleurs, je crois que ça existe toujours. Il y a le Conseil scientifique d'attaque qui fait ses rapports, la Fondation Copernic qui fait voilà, ses recommandations auprès des gouvernements pour essayer de les influencer, de leur dire voilà.
Les économistes atterrés, c'est
les
pareil.
Les économistes atterrants aussi, effectivement, qui sont un peu dans cette logique-là. Alors, il faudrait taxer la taxe Tobin 1% sur la finance pour pouvoir.
Les conseillers du prince, en fait.
Voilà, ils reprennent un peu cette posture du conseiller du prince plus à gauche. Alors, ils veulent faire du conseiller du prince, les économistes atterrés, a priori, j'ai rien contre eux. Bon, ils sont rigolos, ils veulent réguler la vie. Bon, c'est pourquoi pas. Le problème, c'est quand c'est des gens qui interviennent dans les mouvements sociaux pour dire, bon, maintenant, les piquets de grève, etc., les grèves dures, ça doit servir à réguler la finance. Bon, là, c'est beaucoup plus problématique.
Oui, d'ailleurs, ça me fait quand même furieusement penser à Tony Negri, qui, lui, est devenu complètement social-démocrate, et qui faisait une relecture complètement fausse de 1977 et des luttes dures en Italie dans les années 70, et qui disait, finalement, là où finalement, ce à quoi on a servi, c'est à réguler le capitalisme, et on l'aurait mieux régulé, ou plus dans un sens, plus de gauche, si dès le début on avait été plus réformiste et qu'on s'en était tenu et qu'on n'avait pas eu des idées insurrectionnalistes ou d'abolition de la société capitaliste. Vraiment, c'est vraiment cette idée que même un mouvement social de masse, enfin, on va dire le pôle radical, entre guillemets, comme qui était le pôle bolchevique hein, au début du XXe siècle et qui maintenant est le pôle plutôt Lordon, c'est quasiment si on peut faire des insurrections, mais c'est pour finalement aboutir à un État keynésien. Donc on voit un peu le paradoxe. Hein. Lordon déclarait qu'il n'était pas contre, parfois déclare qu'il n'est pas contre l'insurrection, mais c'est une insurrection qui doit durer 3 jours et qui ensuite doit placer au pouvoir, disons, des économistes atterrés, bon, au mieux Bernard Friot. Enfin, on voit un petit peu l'absurdité du schéma. Et effectivement, c'est un problème qui a écrasé nombre de mouvements sociaux au XXe siècle. Il suffit de penser à mai 68, au Parti communiste, le rôle qu'a joué le Parti communiste français et la CGT dans empêcher les ouvriers de rencontrer les étudiants plus radicaux, dans le cantonner le mouvement de grève à des objectifs strictement professionnels et pas commencer à avoir comme but de transformer la société ou d'abolir la société de classe. On voit clairement que toutes ces intelligentsias de partis et d'organisations syndicales ont fait énormément de mal aux mouvements sociaux au cours du XXe siècle. Ce qui fait que là où ça a été le plus radical, c'est là où ces mouvements étaient les plus faibles. Par exemple, dans les campagnes aragonaises, où la CNT n'était pas si forte que ça, ils ont fait le communisme libertaire. À Barcelone, ils étaient très forts. À Barcelone, du coup, bon, ce qu'on a assisté, c'est une espèce de capitalisme autogestionnaire qui, au bout de 2 ans, finalement, n'a rien donné, quoi. Il y a vraiment une menace, aujourd'hui encore, pour les mouvements sociaux, à ne pas voir que derrière toutes ces idéologies de défense des services publics, alors aujourd'hui, on parle moins de socialisme, on va plutôt parler de défense des services publics, d'État citoyen et tout ça. Mais finalement, on peut leur faire la même critique que Makaïski leur faisait au début du XXe siècle au socialisme et que Beer faisait dans les années 80 à la social-démocratie et au bolchevique, que ce sont des idéologies qui ne visent qu'à l'avancement social d'une classe qui sont, enfin, des classes moyennes salariées, de l'encadrement, et qui ne sont pas des idéologies révolutionnaires, mais plutôt des idéologies qui sont contre-révolutionnaires. Et ça, c'est vraiment important de se le redire aujourd'hui, même si aujourd'hui, ça prend une forme un peu différente qu'on avait étudiée dans et décryptée et démystifiée dans une émission, alors dans l'émission avec Alain du Bloc Carbure, mais dans l'émission qu'on avait faite avec Sylvain au moment du mouvement contre la loi travail, et puis dernièrement, dans une émission qui était consacré à la question du populisme, puisque évidemment, aujourd'hui, la nouvelle bannière hein, de la classe d'encadrement, c'est le peuple, le populisme, et c'est plus tellement le socialisme. Mais finalement, il y a des continuités entre les deux. Hein. On voit bien, la France insoumise provient du front de gauche, simplement, elle a accompli sa mue idéologique complète et ne parle plus jamais de lutte de classe, même si c'était avant de manière très fade. Et maintenant parle uniquement de lutte contre l'oligarchie. Mais finalement, si on observe bien l'histoire du socialisme est truffée aussi de 99 contre 1%, l'antisémitisme, je reprends la Jaurès, bon, l'antisémitisme en Algérie à la fin du 19e siècle, bon, c'est un peu des camarades égarés, finalement, comme nous, ils luttent contre les capitalistes, et où, là où on voit que finalement, le projet socialiste, si on gratte un petit peu le vernis, lutte de classe, transition vers le communisme et tout ça, c'était globalement une espèce de contestation par la classe d'encadrement de la classe bourgeoise, ce qu'on peut appeler l'oligarchie et tout ça. Et c'était finalement la lutte des 20% contre les 1% en essayant d'embrigader le prolétariat avec les 20%. Quoi.
Oui, et puis un autre discours de cette classe d'encadrement quand même par rapport aux mouvements sociaux, c'est qu'ils leur disent aux mouvements sociaux, écoutez, vous êtes gentils, là, vous vous agitez, etc. Mais ce qu'il vous faut vraiment, c'est un débouché politique. Voilà, leur don, quand il harangue les gens, bon, voilà, effectivement, grève générale insurrectionnelle, mais quand même, après, un débouché politique. Et le débouché politique, c'est quoi? Bon, alors, c'est Mélenchon, éventuellement, la France insoumise, hein, le bulletin de vote, etc. Mais c'est surtout, effectivement, que le mouvement social doit déboucher vers une représentation avec des gens qui les représentent, et qui sont en général issus de cette classe d'encadrement. Hein, ils ne sont pas issus directement du mouvement social. Puisqu'il y avait des gens, hein, Nuit debout, c'était un peu ça, hein, le Ruffin, Lordon, etc. Ils ne soutenaient pas les piquets de grève, etc. Ils allaient, place de la République, faire un peu haranguer le peuple, disant, bon, mais maintenant, le moment est sérieux, voilà, etc. Tout était très sérieux, d'ailleurs. Et avec, effectivement, cette perspective de débouchés politiques, électorales, institutionnelles. Maintenant, la rue, c'est bien, mais il faut être sur ses deux jambes. Ça, c'est aussi un discours qu'on a entendu beaucoup de Ruffin. À la fois la révolution dans la rue et la révolution par les urnes. Il y a le concept de révolution citoyenne, de la France insoumise, qui est très à la mode. Eh bien, je pense qu'effectivement, ça, c'est des perspectives politiques qui s'opposent à une autonomie du mouvement social. C'est-à-dire que quand ces gens-là interviennent, leur objectif, c'est pas d'étendre le mouvement, de coordonner les différents mouvements de grève, les différents mouvements d'occupation, de lutte, etc., pour construire une autonomie, pour construire des auto-organisations, et puis ensuite, effectivement, se coordonner avec des mandatés, mais avec un mandat qui vient de la base, et ce ne sont pas eux qui dirigent eux-mêmes. Et c'est remettre, effectivement, un mouvement qui vient d'en haut, qui viennent des institutions, qui viennent de l'État. Ça, Alain Bia insiste beaucoup sur le fétichisme de l'État, de la part de cette classe d'encadrement. Et je pense que c'est important, effectivement, de renouveler ces critiques de Makaïski, etc., pour un peu attaquer ces impasses qui sont proposées à tous les mouvements sociaux dans l'histoire, effectivement, jusqu'à aujourd'hui.
Oui, ouais, c'est clair qu'effectivement, il y a un enjeu politique à faire une critique très sérieuse aujourd'hui de toutes ces idéologies d'encadrement, que ce soit le socialisme des intellectuels ou le populisme des intellectuels maintenant. Hein. On peut vraiment parler de populisme des intellectuels aujourd'hui. Et il y a vraiment un enjeu à en faire la critique, parce que même si ce que peut dire Makaïski ou même Beer peut paraître un peu obsolète parce que les concepts ont changé de cette idéologie d'encadrement. Effectivement, là, on parle plus aujourd'hui que de révolution citoyenne, on ne parle plus de lutte contre la bourgeoisie, de lutte de classe ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'on a l'impression que, bon, ça a changé, que voilà. Mais en réalité, ces nouvelles formes, finalement, le socialisme des intellectuels était déjà une forme de récupération idéologique du socialisme des ouvriers. Le socialisme des intellectuels, c'était finalement essayer de détourner, le prolétariat de d'objectifs plus radicaux comme l'abolition de la société de classe, l'abolition de l'exploitation, etc., en utilisant le même langage, mais de manière beaucoup plus scientifique, en parlant de lutte de classe, mais malgré tout de développement objectif des forces productives, etc., etc. Disons, en se donnant un air savant, et en utilisant malgré tout quelques concepts en commun, socialisme, communisme, lutte de classe et tout ça, essayer de détourner le mouvement ouvrier. Aujourd'hui, d'une certaine manière, l'encadrement n'a plus besoin d'utiliser ces concepts-là pour faire avancer son agenda politique, puisque précisément le mouvement ouvrier a été détruit en grande partie suite à la restructuration capitaliste des années 70-80, et il a été tellement détruit qu'il a aussi été détruit même dans ses idées, c'est-à-dire que tant dans les années 60 et 70, il y avait encore pas mal d'ouvriers qui s'intéressaient à des choses comme la lutte de classe, le communisme de conseil et tout ça. Aujourd'hui, d'une certaine manière, la classe d'encadrement, à partir des années 80, et Mitterrand, a complètement abandonné le mouvement ouvrier qu'il avait mis sous tutelle pendant un siècle, l'a complètement laissé à lui-même se prendre la restructuration capitaliste en pleine gueule, l'a abandonné pour aller prendre des postes de pouvoir dans l'administration Mitterrand. Hein, ça, tous les gauchistes des années 70, issus des classes moyennes, sont allés prendre leur place. L'appareil d'encadrement a explosé en France au début des années 80. Il y a eu des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de postes qui ont été créés pour tous ces intellectuels gauchistes issus de la classe d'encadrement. Et le mouvement ouvrier a été complètement abandonné et laissé à lui-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement ouvrier, d'un point de vue idéologique, alors heureusement, il y a des initiatives autonomes et tout ça, il y a quand même une reconstruction, mais elle était là. Ce mouvement ouvrier a été abandonné. Bon, il y a des ouvriers qui ont voté Sarkozy, il y en a qui ont voté Macron. Il y a aussi des prolétaires qui se sont laissés attirer par le discours, défense de race de Marine Le Pen. À mon avis, l'encadrement a une responsabilité historique dans l'abandon complet de... Et ça a d'ailleurs été théorisé, hein. La nouvelle gauche déjà a théorisé le fait que finalement c'était les classes moyennes de ce nouveau sujet révolutionnaire. Dans les années 80, il y a eu la stratégie du Parti Socialiste, enfin à partir des années 80, et très clairement à partir des années 2000, que finalement la classe ouvrière on s'en fout, et que ce qui compte c'est les classes moyennes. Il y a eu tout un abandon. L'encadrement, après avoir récupéré, manipulé le prolétariat pendant un siècle, l'a complètement laissé à l'abandon, et ce qui fait que maintenant ils ont même plus besoin de parler de prolétariat, de lutte contre la bourgeoisie, mais que maintenant ils peuvent se contenter simplement d'en appeler au peuple. Et en réalité, quand on regarde qui vote pour la France insoumise, c'est pas tout le peuple. C'est en réalité, les classes populaires sont toujours laissées à l'abandon. La France insoumise se fout complètement des classes populaires, que ce soit dans le discours ou dans les politiques. Et ce qui compte en réalité, c'est les classes moyennes. Ils pourraient dire classe moyenne au lieu de dire peuple, ce serait exactement la même chose en termes de composition du corps électoral, de militance ou de politique effective. Il suffit de penser au fait que, par exemple, la France insoumise se préoccupe beaucoup de finances, de taxation, de défense de la propriété immobilière, parce que le patrimoine immobilier, c'est quand même le truc des classes moyennes et tout ça. Et bon, après, les trucs sur le logement social ou les choses comme ça, même ça, ça les intéresse plus tellement, quoi.
Ensuite, je ne partage pas cet optimisme sur l'impuissance de la France insoumise. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les mouvements sociaux, dans les manifestations, on voit effectivement que c'est une sociologie de classe d'encadrement. En revanche, au niveau des résultats électoraux, je n'ai pas fait une sociologie assez fine des résultats électoraux, mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi leur pari, mine de rien, d'avoir cette alliance entre la classe d'encadrement et les classes populaires.
Enfin, disons qu'ils n'ont eu qu'une petite partie de la classe populaire, parce que la majorité est abstentionniste, mais c'est vrai qu'ils ont eu cette partie-là, c'est vrai.
Et ils ont réussi un peu leur pari du socialisme des intellectuels d'enrôler une partie des classes populaires au service de l'intérêt de la classe d'encadrement, renommé intérêt général ou 6ème République, on l'appellera comme on veut. Mais au niveau électoral, ils ont réussi cet aspect-là. En revanche, ils n'ont pas, comme le Parti communiste de la grande époque des années 50 en France, par exemple, au niveau de leur implantation politiques, syndicats, dans les quartiers, dans les entreprises, et ils ont beaucoup plus de mal. Ça, c'est vrai, c'est encore notre chance, mais au niveau électoral, je pense qu'ils diffusent pas mal d'illusions, ils colportent pas mal d'illusions, d'autant plus qu'ils insistent quand même sur ce rôle des intellectuels. Ils considèrent que les intellectuels ont un rôle très important à jouer. François Ruffin, au moment de quand il faisait ses tournées dans toute la France pour présenter Merci Patron, il disait effectivement que les intellectuels doivent s'allier avec les ouvriers, alors non pas dans une solidarité, on va dire qu'il serait une solidarité de classe contre l'exploitation, etc., mais pour les guider, pour leur dire, voilà, écoutez, on va vous apprendre à lire, à écrire, etc., et vous allez devenir de bons petits soldats insoumis.
Ça, c'est une constante, je pense, dans l'histoire de l'encadrement, c'est le paternalisme en fait. C'est le paternalisme vis-à-vis des ouvriers et des ouvrières qui seraient incapables d'eux-mêmes d'avoir aucune autonomie. Ça a été théorisé par exemple par Lénine, qui dit que finalement il n'y a que l'intelligentsia qui peut arriver à la conscience révolutionnaire, à la vérité scientifique et tout ça, parce que finalement tout ce dont sont capables les ouvriers et les ouvrières, au mieux c'est la conscience trade unioniste. C'est un réformisme mou, ce qui fait quand même doucement sourire quand on voit que, en fait, les ouvriers et les ouvrières, historiquement, ont été capables de faire des choses beaucoup plus radicales que le trade unionisme. C'est vraiment de la mauvaise foi de la part de Lénine, être capable d'insurrection, de grève, de sabotage, de révolte. C'est quand même vraiment une blague ce que dit Lénine, mais pour lui, c'était une manière de justifier justement le pouvoir de l'intelligentsia et son paternalisme extrême vis-à-vis des ouvriers. Ce qui permettait, finalement, au nom d'exercer le pouvoir, au nom des ouvriers, ce qui est quand même vraiment la forme suprême de paternalisme, c'est de prendre le pouvoir pour soi-même, et ensuite de dire « Ah, mais on fait ça au nom de la classe ouvrière. » Parce que la classe ouvrière n'est pas directement capable de l'exercer, parce que... Ouais, ils sont trop occupés à bosser dans les usines, par exemple.
Voilà. Et ça rejoint, effectivement, le livre de Karl Korsch, qui dénonce un peu ça dans Kautsky, effectivement, et dans le marxisme orthodoxe, que la conscience politique ne vient pas des ouvriers eux-mêmes, du prolétariat, ne vient pas des luttes ouvrières elles-mêmes, mais cette conscience politique vient de l'extérieur du prolétariat. Effectivement, Lénine a repris totalement cette idée de Kautsky, qu'il faut un parti extérieur au prolétariat qui dise aux gens ce qu'ils doivent penser, qui leur disent, voilà, comment faire la révolution, comment changer les choses, comment s'organiser, etc. Et c'est vrai que ça, c'est une constante dans ce socialisme des intellectuels, d'insister sur le rôle de l'avant-garde. l'avant-garde intellectuelle et politique, qui doit conscientiser les masses, qui doit faire de la propagande auprès des gens pour les remettre dans le droit chemin. Et puis il y a un rôle, alors là, qui est plus des marxistes autoritaires aussi, d'encadrement, clairement, c'est-à-dire de leur dire ce qu'ils doivent faire, de leur donner des ordres, etc. Et aujourd'hui, ça se retrouve effectivement, alors pas parce que les gens ont tous lu Lénine, pas parce que les insoumis, les dirigeants insoumis n'ont pas tous lu Lénine, mais moi je pense qu'il y a effectivement cet héritage-là, et il y a aussi une grande partie de réflexe professionnel. C'est-à-dire que quand les gens sont en grande majorité enseignants, et que le prolétariat, ce sont leurs élèves qui sont pas gentils en classe, qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit et qui font mal leurs devoirs, ils ont tendance à reproduire ces réflexes professionnels, y compris dans la sphère politique. Alors, ils ne côtoient pas beaucoup de prolétaires à la France insoumise, mais si jamais ça arrive, ils vont avoir tendance à dire « Alors voilà, il faut faire ça, il faut penser ça, il faut lire Lénine, ou il faut lire Mélenchon, il faut aller voir le film de François Ruffin, et là tu comprendras vraiment les choses ». Parce que là, pour l'instant, tu n'as pas tout compris, voilà. Et effectivement...
C'est la conscience de classe, quoi. Encore le discours sur la conscience de classe.
C'est le discours sur la conscience de classe qui se renforce avec une forme de mépris de classe. C'est-à-dire que finalement, voilà, ça rejoint totalement ce que critiquent Karl Korsch, Mayakovsky sur cette bourgeoisie intellectuelle. C'est un peu considérer que les prolétaires ne peuvent pas, d'eux-mêmes, à travers leur lutte, se conscientiser, se politiser, mais qu'il faut des gens qui viennent de l'extérieur, des intellectuels, pour les diriger et les orienter vers la bonne voie politique.
Oui, c'est ça. Et c'est un paternalisme, en plus, qui tranche, par exemple, les situationnistes. Bien sûr qu'il pouvait y avoir une petite dimension, forcément, dès qu'on écrit un texte ou des choses comme ça. Mais malgré tout, la grande différence avec, je pense, des situationnistes avec tout ce socialisme et des intellectuels, c'est que précisément, eux disaient c'est le prolétariat qui doit faire la révolution et c'est pas les intellectuels. Nous, on balance des idées un petit peu comme ça, mais ça allait de pair, disons, avec une vision de la révolution où c'est le prolétariat lui-même qui fait la révolution. Après, ce qu'on peut reprocher, c'est que certains textes n'étaient pas forcément hyper accessibles, même à l'époque, etc., etc. Mais au moins, disons, dans la théorisation, dans la théorie situationniste, il n'y avait pas ce paternalisme théorisé et rationalisé à l'extrême qu'on retrouve dans tous les courants du socialisme intellectuel, depuis la social-démocratie jusqu'à la France insoumise, quoi. Et du coup, là, c'est pas pour dire qu'il faut... Il ne faut pas produire des textes. Mais déjà, il faut essayer de les rendre un maximum accessibles, quand même. Ça, c'était par exemple là où, par exemple, Mayakovsky est très critique, par exemple, de Marx, en disant « Le capital, aucun ouvrier ne peut comprendre le capital ». Alors, peut-être qu'il exagère un petit peu, peut-être que c'est pas vrai, je pense que les 12 ouvriers pouvaient comprendre le capital. Mais malgré tout, ça reste quand même des textes difficiles d'abord. Donc, par exemple, l'abrégé du capital de Carlo Cafiero était déjà beaucoup plus accessible pour les ouvriers italiens, par exemple. Et donc, il faut, un, que ce soit accessible, et deux, que ce soit pas paternaliste en disant, en essayant de justifier par les conditions objectives, ou la science, ou la vérité, que, voilà, finalement, il faut sagement respecter le leadership de l'intelligentsia insoumise, ou socialiste, ou je ne sais quoi.
Et chez Karl Korsch, d'ailleurs ça a été repris par les situationnistes, je pense qu'il y a un autre aspect intéressant, c'est une critique de la totalité. C'est-à-dire que la critique du monde capitaliste, de la civilisation capitaliste, doit être une critique de tous les aspects du capitalisme. Et reproche beaucoup à Kautsky et à Lénine leur réductionnisme économique. Et aujourd'hui, je pense que cette critique de Karl Korsch, qui est une critique de la totalité, est particulièrement actuelle, parce que dans la petite bourgeoisie intellectuelle d'extrême-gauche, aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on observe de plus en plus, qui est celui de la spécialisation. C'est lié à l'organisation du monde universitaire, où les gens sont séparés en différentes disciplines. Il y a les sociologues, les philosophes, les économistes, voilà, chacun cloisonné. Et chacun, en plus, maintenant, spécialisé dans son petit sujet, dans son espèce de petite niche, où ils vont être spécialisés, voilà, d'un sujet très très précis, d'une forme d'oppression spécifique en particulier, par exemple, et vont perdre de vue l'ensemble, la critique de la totalité de la société capitaliste. Et c'est vrai que dans ce socialisme des intellectuels, cet aspect-là, avec l'augmentation du niveau de diplôme, avec l'augmentation du nombre d'universitaires, d'experts, etc., va de plus en plus, est de plus en plus important. Et aujourd'hui, on assiste à des critiques de plus en plus spécialisées, où on va critiquer tel ou tel aspect du capitalisme. Alors certains vont critiquer la finance, tel aspect de la politique budgétaire, etc. Et ça, je pense que c'est un vrai problème, et dans ces milieux intellectuels aujourd'hui sont très fractionnés, parce que chacun veut aussi sa petite reconnaissance personnelle. C'est aussi un des aspects particuliers. Chacun veut être reconnu dans son domaine de spécialité en tant qu'intellectuel, etc. Et du coup, il y a une critique qui n'est plus une critique révolutionnaire, une critique de la totalité, mais un espace d'assemblage de différentes expertises faites chacun dans leur coin qu'on va essayer d'additionner.
Et ce qui favorise évidemment la récupération et le réformisme, puisque on peut éventuellement essayer de faire des politiques publiques qui luttent contre tel aspect du sexisme ou tel aspect du racisme ou tel aspect, je sais pas moi, du mal logement et tout ça, alors qu'avec une critique de la totalité, une critique du capitalisme, du patriarcat, du racisme, enfin de toutes les formes d'oppression sociale, là, pour le coup, c'est beaucoup plus difficile, disons, de répondre effectivement à ce genre de critiques. Et effectivement, bon, c'est un petit peu la perspective de l'émission, de manière générale, de garder en tête une critique de la totalité, même si parfois on va faire des émissions plutôt sur la police, ou parfois sur le capital, ou parfois sur le racisme, ou parfois sur le patriarcat. C'est important au moins de garder une espèce de vision d'ensemble, parce que effectivement, le socialisme des intellectuels est très content finalement d'isoler les questions, parce que même si c'est des questions qui effectivement analytiquement sont complexes, mais disons que la logique, disons en tout cas des intellectuels, peut être finalement de faire comme s'il y avait une séparation absolue dans la réalité, alors qu'en réalité le patriarcat, le sexisme et le capitalisme s'entremêlent dans la vie quotidienne des gens. Il peut y avoir une tendance du coup à les isoler analytiquement, faire comme s'ils étaient radicalement séparés, et du coup finalement aboutir à, par exemple, les indigènes de la République qui vont simplement proposer des politiques publiques liées au racisme et qui vont pas du tout prendre en compte la critique par exemple du capitalisme et la critique du patriarcat. Et donc ça va être une logique encore une fois de virer un peu au conseiller du prince, et si on avait un bon gouvernement de gauche qui faisait des bonnes politiques publiques antiracistes, ou des bonnes politiques publiques antisexistes, ou des bonnes politiques publiques anti-finance, et effectivement, on favorise le réformisme et la récupération. Et effectivement, c'est là où des théories critiques et des discours critiques et des luttes qui articulent la critique du capitalisme, la critique de la société bourgeoise, dans ce cas-là d'aliénant, la critique du sexisme, la critique du racisme, etc., ont une plus grosse portée. Et de toute façon, ces aspects-là, dans la vie des gens, en général, se conjuguent et c'est jamais séparé analytiquement. Et du coup, il y a effectivement un enjeu effectivement à penser de pair toutes ces questions-là, parce qu'elles touchent les gens. Les gens ne sont pas une addition de... Même si analytiquement, c'est intéressant d'analyser les oppressions de manière... spécifiques, etc., pour pas les minimiser, parce que trop souvent, par exemple, on a minimisé le patriarcat et le racisme, parce que ce qui comptait, c'était la lutte des classes et tout ça. Maintenant, je pense qu'on est revenu de ça, mais il faut, effectivement, dans une critique totale de la vie quotidienne des gens, mettre sur le tapis toutes ces questions-là ensemble, et c'est ce qui permettra aussi peut-être le mouvement social d'aller un peu plus loin, parce que là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un mouvement antiraciste qui a un peu mis de côté, disons, au moins pour sa composante, disons, intellectuelle, qui a mis de côté finalement les questions de féminisme et de capitalisme. Le pire a mis complètement ces questions de côté. Pendant très longtemps, le mouvement, anticapitaliste, gauchiste, avait mis complètement de côté les questions de racisme et de sexisme. Et il y a une frange du féminisme qui a mis de côté historiquement les questions de racisme et de capitalisme. Et on voit bien qu'en général, c'est les classes moyennes, l'encadrement ont tendance à plus facilement se spécialiser et à mettre de côté sous le tapis, parce que par exemple, elles subissent moins l'oppression de classe, donc la question de classe, on la met un peu sous le tapis. Et souvent, c'est les intellectuels, aujourd'hui en France, restent quand même majoritairement des intellectuels blancs qui ont tendance à mettre aussi sous le tapis un peu la question du racisme, ou alors à le faire de manière complètement paternaliste, du type le Parti Socialiste et avec le SOS Racisme, quoi. Donc il y a vraiment un enjeu là-dessus, quoi.
Oui, je pense que c'est lié beaucoup à la spécialisation universitaire, quand même, cette différence de cloisonnement. Alors que dans les mouvements de lutte, je pense que là aussi, pour revenir à Karl Korsch, effectivement, il critique beaucoup l'idéalisme des intellectuels et qu'il oppose un peu au matérialisme ou en tout cas aux pratiques de lutte. Et je pense que dans les mouvements de lutte, les mouvements qui viennent du féminisme ou qui luttent contre le racisme, ont beaucoup plus, on va dire, une critique de la totalité, dans le sens où les personnes s'aperçoivent que pour lutter contre une oppression, il faut en finir avec la totalité de ce monde-là. Quand on veut lutter contre les violences policières sans abolir l'État ou le capitalisme, ça devient compliqué. Quand on veut lutter contre le patriarcat, il faut remettre en cause l'ensemble de la société, ses normes, ses contraintes sociales, ses rôles sociaux, etc. Et on ne peut pas se contenter d'un aspect. En revanche, les universitaires qui sont spécialisés sur un domaine précis d'études vont tendance à évacuer le reste, en gros, ce qui rentre pas dans leur domaine de recherche précis, et considérer que leur domaine de recherche précis, c'est vraiment ça qui est au centre, et le reste n'a pas d'importance.
Oui, je pense que c'est très important ce que tu as dit, qu'effectivement, c'est les mouvements sociaux qui favorisent une critique de la totalité, alors que au contraire, la critique universitaire va favoriser plutôt une critique de telle oppression ou de tel aspect. Et c'est là où, effectivement, on voit effectivement que plus il y a de mouvements sociaux, et plus ces mouvements sociaux sont forts et radicaux, plus il y a une critique de la totalité qui se dessine. Bon, par exemple, si on pense aux années 68-70, il y avait une critique de la totalité qui se dessinait. Il y avait les situationnistes. Il y avait une grande partie du mouvement féministe qui avait pris en considération les questions de classe, parce que d'ailleurs la plupart venaient du marxisme, du situationnisme, de l'anarchisme. Alors que, par exemple, dans les années 90, où les mouvements sociaux étaient, et les années 2000, où les mouvements sociaux étaient quand même moins actifs, là, pour le coup, il y avait une tendance, c'est une période qui a vu naître le Partisan Hygiène de la République. Il y a aussi, pour prendre l'exemple, un exemple caricatural dans le féminisme, il y a Oser le féminisme, qui ne prend pas du tout en compte les questions de classe, pas du tout les questions de racisme, et qui est même en plus transphobe, Là, on voit bien que l'absence de mouvements sociaux favorise le repli universitaire, d'une part, mais aussi, plus moins il y a de mouvements sociaux, plus il y a la tentation pour ces intellectuels de devenir des conseillers du prince, en fait. Et Oser le féminisme, typiquement, Oser le féminisme, SOS Racisme étaient des émanations, étaient des organisations qui étaient liées au Parti Socialiste. Et on voit bien que là, typiquement, le Parti Socialiste, en termes de socialisme des intellectuels, a fait énormément de mal, en termes de critique sociale, parce que précisément, ils ont récupéré tous les militants gauchistes, donc peut-être étaient déjà récupérables d'ailleurs souvent, après, derrière, ils ont favoriser des organisations séparées sur SOS Racisme, sur le racisme, Oser le féminisme, sur le féminisme, qui ont perdu de vue la totalité et qui sont devenus des mouvements, des espèces de think tanks qui proposent des vagues réformes qui d'ailleurs, même dans leur domaine, sont complètement inefficaces, puisque SOS Racisme sur le racisme, ça n'a pas du tout marché, Oser le féminisme sur le féminisme, ça n'a pas marché non plus. Et donc, on se retrouve avec, ces mouvements-là qui malheureusement, ont réussi à attirer beaucoup de gens, beaucoup de militants antiracistes sincères, de militants féministes sincères et tout ça. Aujourd'hui, maintenant, heureusement, avec le retour des mouvements sociaux, il y a la grande partie du féminisme s'est éloignée des féministes, des jeunes féministes, se sont éloignés de trucs comme Oser Féminisme, en disant que ça prenait pas en compte suffisamment le racisme, la classe, le capitalisme et tout ça. Et on voit beaucoup plus, avec le renouveau des mouvements sociaux depuis les années 2008, un retour à la critique de la totalité, quoi, ce qui est plutôt encourageant.
C'est une vision optimiste des choses.
C'est une vision optimiste des choses, c'est vrai. Et mais c'est vrai que malheureusement, ce qui domine encore aujourd'hui, c'est des choses comme la France insoumise, et effectivement des choses beaucoup plus spécialisées comme le Parti des indigènes de la République. Je pense qu'on peut être un petit peu optimiste que dans les prochaines années, sauf s'il y a un reflux total et durable des mouvements sociaux, qu'il y aura un retour plus franc à la critique de la totalité. Parce que quand on voit par exemple aujourd'hui par rapport au milieu des années 2000, il y a quand même une critique de la totalité qui est un petit peu plus forte quand même.
Ouais, mais je pense que ce qui peut permettre une critique de la totalité, c'est des mouvements sociaux comme il y a eu en 2016, etc. Où du coup, alors le problème de Nuit Debout, c'est qu'apparemment il y avait des commissions aussi très spécialisées, tenues par eux-mêmes des experts intellectuels de chaque sujet. Mais disons que des mouvements sociaux d'ensemble où il y a des différents secteurs de la société qui se retrouvent dans une critique, même si c'est une critique d'une réforme en particulier ou d'une loi en particulier, de retrouver effectivement une critique de la totalité. C'est quand il y a des luttes, effectivement, parce que même on peut partir d'une lutte en particulier. Je crois que c'était Audrey Lorde, une théoricienne féministe, qui disait quand on commence à relever la tête contre une oppression, ensuite on relève la tête contre toutes les oppressions. Quand il y a une femme qui se met à faire grève, quand elle rentre ensuite chez elle, après le piquet de grève, elle ne va pas supporter que son homme la méprise, parce qu'elle a tenu tête au patron, etc., etc. Et je pense que quand on commence à se révolter contre quelque chose en particulier, ensuite on va être amené à se révolter plus facilement contre toutes les formes d'oppression et à ne plus accepter une oppression quelle qu'elle soit.
Ouais, bien sûr, et c'est ce qu'on a vu un petit peu au moment de la contestation de la loi travail, puisque effectivement, il y a eu une critique de classe, mais il y a eu aussi une critique de genre, la triple journée, le fait que c'était les femmes qui, étant donné qu'elles étaient les plus précarisées dans le cadre de la division du travail capitaliste, allaient se retrouver avec les pires conséquences de cette loi. Et de la même manière, les personnes racisées, qui elles aussi, dans la division du travail capitaliste, se retrouvent en général aux postes les plus pourris, et les plus précaires, prenaient effectivement encore plus cette réforme. Et du coup, ce qui faisait que cette réforme permettait d'articuler les différentes oppressions et de prendre conscience de ça et éventuellement de pousser ça jusqu'à une critique radicale de toute la société existante dans ses dimensions de classe, raciste et de genre, quoi. Donc je pense que ça a une bonne conclusion pour cette émission. On vous invite, si vous avez trouvé ça intéressant, à pourquoi pas lire des textes de Makaïski. La présentation d'Alexandre Skirda est assez intéressante. Pour les plus motivés, après on pourra lire Karl Korsch, Marxisme et philosophie. Qu'on trouve d'ailleurs facilement sur internet. Et le livre d'Alain Bire, même s'il a des aspects un petit peu ennuyants par moment, reste quand même assez intéressant sur la question des classes moyennes. On renvoie aussi sur la question des classes moyennes aux articles du blog Carbure et au feuilleton de Bruno Astarian sur qui s'appelle Un ménage à trois, du coup, un ménage à trois classes. Voilà, on espère que ça vous a intéressé et que vous serez plus méfiant vis-à-vis de différentes du populisme et du socialisme des intellectuels qui sévit malheureusement encore aujourd'hui. Voilà, merci Sylvain.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous connaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.